Dans cet épisode, on reçoit Mélanie Roy, gestionnaire de site au CHSLD Hubert-Maisonneuve, et Michel Gauthier, adjoint à la direction soutien à l'autonomie de la personne âgée et en charge des projets de rénovation et de transformation des CHSLD, qui est en lien directement avec le sujet d'aujourd'hui qui est...
Oui, aujourd'hui, on va aborder toute la question de transformation de nos CHSLD, transformation de nos lieux d'hébergement, voir comment ça se crée, cette transformation-là, les différentes étapes, les innovations aussi qui émergent des équipes du terrain. Puis finalement, on va vraiment voir où est-ce qu'on s'en va, de où on est parti. Donc, bonne écoute! Yeah!
Donc prends soin de nos aînés. Passion, partage et compassion, notre façon de travailler. Pour vivre vieux et vivre heureux, on a de nouvelles idées. On veut tout améliorer, vous pouvez vous impliquer. Des milieux de vie et bien plus.
Bien, c'est sûr qu'on est passé en fait d'un milieu qui était axé sur le soin historiquement, et de dire qu'on veut changer la perspective puis être axé davantage sur un milieu de vie. Donc, historiquement, tous les soins ou toute l'organisation du travail a été axé en fonction ou calqué, si on veut, d'un modèle hospitalier. Ce qui veut dire que essentiellement, ben le déjeuner, il arrive à 8 heures. Après, c'est l'autre le dîner à midi. Le souper est aussi à une heure très définie. Puis, autour de ça, on a organisé les soins puis on a donné une saveur de milieu de vie. Donc, ceci étant dit, quand on change la perspective complètement, puis qu'on se met en mode milieu de vie, bien là, on organise les soins autour de ça, mais là, on change complètement l'angle, et c'est là qu'on revoit l'ensemble de nos processus, puis aussi de toutes nos habitudes. Puis, notamment, quand on dit, bien, on va respecter le rythme de nos résidents, à la place, on va dire, bien, on accompagne le résident dans sa journée, son 24 heures à lui, qui peut être différent d'un résident à l'autre. Donc, c'est de là que, puis je dirais que, en tout cas, Michel, je pense qu'il va pouvoir en dire un petit peu au niveau de la maison des aînés, je pense à donner l'opportunité de réfléchir puis de prendre un moment d'arrêt pour revoir nos pratiques puis dire comment on peut être innovant. Puis, quand on prend l'angle du 24 heures du résident, bien là, finalement, des soins qu'on donnait très tôt dans la journée parce que là, notre journée est débutée, bien là, on peut l'étaler à d'autres moments, finalement, qui est plus pertinent. Puis, je dirais qu'essentiellement, ou en résumé, ce qu'on va dire, c'est qu'on veut donner le bon soin à la bonne personne, puis au bon moment. C'est un peu être dans « just in time », mais par rapport aux soins. Donc, c'est parti de là, je dirais, là, de la pertinence de repenser tous nos processus. Puis, ça inclut tous les partenaires, hein? C'est très imbriqué. Le service alimentaire, c'est toute une logistique à changer les façons de faire. Donc, il faut se donner les moyens, puis aussi, c'est à tous les angles. Fait que je dirais que c'est le point de départ qui a amené beaucoup de réflexion.
Je dirais que c'est bien, beaucoup de travail, plein de beaux défis, mais très passionnant parce que ce qu'on veut, c'est surtout se rapprocher de la vraie vie. C'est se rapprocher plus de la vie à domicile, d'un vrai milieu de vie. Ce qu'on veut, c'est que les personnes se sentent vraiment chez elles, puis qu'on respecte vraiment leur rythme, leurs besoins. C'est pour ça qu'on dit qu'on va organiser notre travail maintenant autour des besoins de la personne, autour de ses habitudes de vie. Puis c'est ça qui est important, c'est ça qui est le plus important dans la transformation du milieu d'hébergement, c'est de faire en sorte que les personnes se sentent comme s'ils étaient chez elles, comme s'ils avaient une vie bien complète, bien organisée autour de leurs passions, autour de leurs intérêts. Et on prend les soins, parce que les soins sont encore là, sont encore nécessaires, mais on les met au service de la personne, au service de leur projet de vie, au service de la réalisation de leur journée, selon ce qu'elles ont goût de faire. Donc, on va mettre beaucoup plus l'accent sur tout ce qui est occupationnel, tout ce qui est activité de loisir. Puis, les soins vont vraiment être autour de ça, s'organiser, s'adapter à la personne et à ses besoins. Puis, c'est ça qui est vraiment la transformation. Puis, c'est de viser, dans la transformation, c'est vraiment de viser le bonheur de la personne. Puis, avoir le meilleur compromis entre le meilleur état de santé possible dans leurs conditions, parce qu'on s'entend que c'est encore des gens très malades dans les milieux d'hébergement, mais s'assurer qu'elles sont heureuses d'abord et avant tout. On vise vraiment leur bien-être, puis le bien-être ne passe pas uniquement par des bons soins, mais il passe aussi par s'accomplir, se réaliser, avoir des activités. Puis à la fin de la journée, ben, avoir l'impression qu'on a fait quelque chose, qu'on fait partie de la société, qu'on se réalise encore socialement, qu'on a encore des contacts humains avec des gens. Puis la transformation aussi, c'est comme intervenant, je pense qu'un des points importants, c'est comme intervenant, comme expert du réseau de la santé, bien, c'est ouvrir nos portes à la communauté, c'est ouvrir nos portes aux proches aidants, puis dire venez avec nous donner des soins à nos aînés, venez mettre votre contribution, puis c'est de faire de la place à ça. Donc pour moi, c'est l'importance de toute cette transformation-là. C'est un peu de revenir à ce qu'on faisait dans le passé. Il y a un adage qui dit que ça prend un village pour élever un enfant. Ben moi, je dirais que ça prend un village pour s'occuper de nos aînés. Donc, il faut vraiment là, aller chercher tout le monde autour puis ouvrir nos portes.
Tout à fait. Puis, on prend ça par où, une transformation? Parce que ça peut paraître vraiment gros. Puis là, vous êtes avec nous. En fait, Mélanie, toi, tu as eu une grosse transformation à Hubert Maisonneuve, accompagnée par Michel. On commence ça par quel morceau, comment? Eh bien, c'est très large, transformer, mais comment concrètement ça peut se faire?
Absolument. Puis, en fait, quand il y a eu le projet de la Maison des aînés, je pense à donner l'opportunité puis les ressources de réfléchir le moment d'arrêt qu'on avait besoin, je pense, pour prendre ce virage-là. Mais essentiellement, ce qu'on s'est dit, on n'aura pas des soins en Maison des aînés, des soins en CHSLD, hein? Parce que la Maison des aînés, bien là, on l'a réfléchi, la structure, le bâtiment, pour répondre à une nouvelle philosophie, mais essentiellement, c'est beaucoup dans l'organisation du travail, c'est beaucoup dans la culture, dans la philosophie de travail. Hein? Quand on parle du loisir, bien souvent, le préposé aux bénéficiaires, bien, il était ciblé pour donner des soins de base, les soins d'assistance, mais là, quand on dit, il y a toute la dimension occupationnelle, on vient changer les paradigmes. Et essentiellement, les employés qu'on a dans nos centres, c'est les mêmes qui vont aussi travailler dans les maisons des aînés. Donc, le virage, il faut le prendre à même nos centres d'hébergement, puis on n'aura pas deux services à deux vitesses. Cette philosophie-là, on va la transformer partout. Puis c'est le choix qu'on a fait au 6 des Laurentides d'investir en amont pour qu'au moment où la maison des aînés ouvre, bien, ça va se faire très naturellement dans cette nouvelle approche-là. Et essentiellement, nous, on a amorcé dans tous nos centres des transformations. Je dirais, un des nerfs de la guerre avec ça, c'est toujours la communication. Hein? C'est le soin sur 24 heures. Puis quand on dit qu'on accompagne le résident dans son 24 heures à lui, à son rythme à lui, il est différent d'un résident à l'autre. Mais il faut se donner des mécanismes de communication qui hyper sophistiqué pour le faire parce que entre les corps de travail, entre les journées, on a des intervenants différents qui viennent prendre la relève. Moi, j'appelle ça un petit peu, on se passe le flambeau pour poursuivre dans le 24 heures en ayant le moins de manquements possible, que ce soit. C'est des grandes équipes, là. C'est des grandes équipes. Puis, il faut se partager. Puis, tu sais, on a la responsabilité de l'ensemble de nos résidents. Puis, si jamais. Puis, en tout cas, on doit favoriser la collaboration. Donc, on a réfléchi à un modèle. C'est un peu une plateforme de communication, je le dirais, qu'on nomme ça le SCOTY. C'est le système de communication et d'organisation du travail intégré. Fait que tout ça pour dire, tous ces beaux mots-là, de dire que c'est une plateforme de communication qui amène une facilité à se transmettre de l'information entre à même le corps de travail, parce qu'on a des extrêmes grandes équipes, mais aussi entre les corps de travail. Puis, d'une journée aussi à l'autre, parce qu'en même temps, on peut avoir des intervenants qui ne travaillent pas 7 jours sur 7, évidemment. Donc, même d'une journée à l'autre, il faut que l'information se poursuive dans le temps. Donc, cette plateforme-là, essentiellement, on a des tableaux de communication, on a des babillards d'affichage, mais aussi on a un tableau opérationnel qui permet de colliger toute l'information pertinente pour la continuité des soins de nos résidents. Puis moi, ce que je trouve intéressant dans cette plateforme-là, c'est très dynamique. Hein? On a, puis à ça s'ajoute dans le modèle. Fait que maintenant, on a deux rencontres par corps. de 15 minutes, des brèves rencontres, puis ça, ça fait toute la différence. Puis moi, je le compare un petit peu à une équipe de football là, qui est sur le terrain, puis de dire, ben, on se rassemble, on fait notre caucus pendant 5 minutes, puis après, on sait tout où se disposer sur le terrain. C'est un petit peu ça, la similarité avec nos équipes de soins.
En fait, ce que Coty permet, c'est de s'adapter au quotidien, mais aussi plusieurs fois dans la journée, aux besoins réels de la personne. Parce que les besoins évoluent dans le temps, mais peuvent évoluer dans la journée. Donc, ça nous permet de s'adapter. Puis, la question sur par où on commence quand on veut faire une transformation, bien, en fait, Scotty, et moi, c'est la plus grande leçon que j'ai appris avec Scotty, c'est d'amener l'équipe, c'est de donner le pouvoir à l'équipe de faire cette transformation-là.
Là, on parle à l'équipe terrain.
À l'équipe terrain, ou vraiment sur le terrain, puis... Moi, je vais parler des acteurs du milieu, c'est-à-dire il y a l'équipe terrain, il y a l'équipe de soins, il y a les équipes de soutien aussi, qu'on embarque dans le groupe, tous les professionnels, puis il y a les proches aidants et les résidents eux-mêmes. Donc, c'est de redonner le pouvoir aux gens. Il y a une prise de conscience des défis qu'on a à relever, parce que dans nos milieux d'hébergement, il y a beaucoup de choses qui vont très, très bien, mais il y a toujours des défis à relever, des choses qui vont un peu moins bien. Puis quand on fait cette prise de conscience-là, bien, Scotty, c'est comme notre outil, mais d'abord et avant tout, c'est l'outil des gens sur le terrain pour justement relever ces défis-là, s'améliorer, puis rendre le milieu de plus en plus adapté aux besoins réels des résidents, puis des proches, puis ça nous permet surtout d'évoluer dans le temps, donc de suivre ce qui se passe. Donc, c'est vraiment, je pense, le pour commencer, c'est de redonner le pouvoir aux gens sur le terrain. C'est ce qui permet vraiment de faire cette transformation-là. Et je trouve que dans notre organisation, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se donne la latitude que tous nos milieux d'hébergement embarquent dans cette transformation-là. Parce que c'est vrai que Maison des aînés nous a amenés à réfléchir, puis à revoir notre pensée, à nos façons de faire. Mais on a tous des choses à transformer qui sont communes à tous nos milieux d'hébergement, mais on a aussi tous des particularités. On a tous des couleurs locales, puis dans notre organisation, nous, on se donne cette latitude-là de faire en sorte que chaque organisation, chaque CHSLD, chaque maison va pouvoir aussi transformer des choses qui sont propres à eux.
L'adapter d'une certaine manière. Exactement. À la réalité de leur milieu, dans leur sens.
Exactement. Fait qu'on respecte en même temps la couleur locale, parce que, bon, les Laurentides, c'est grand. On a plusieurs beaux endroits où on peut vivre en milieu de vie. Mais il y a des couleurs locales, puis ça, je pense que c'est hyper important de le respecter. Puis c'est plus facile à faire quand tu redonnes le pouvoir aux gens sur le terrain. Puis je pense que Scotty, c'est vraiment l'outil par excellence pour nous aider à le faire.
Fait que Scotty a été construit et pensé avec les employés, si je comprends.
Avec et par les employés.
Par les employés, oui, même, OK.
Absolument. C'est une innovation, comme organisation, c'est une innovation qui vient de nos employés. Évidemment, il y avait un besoin, il y avait un déménagement qui s'en venait.
Déménagement d'un CHSLD.
D'un CHSLD vers un nouveau CHSLD. Il fallait mobiliser une équipe qui avait des défis de communication puis de continuité de soins. Puis c'est à travers le Scotty qu'ils ont bâti, pas tout seul, évidemment, il y a des gens qui les ont aidés puis qui les ont guidés là-dedans, mais qu'ils ont bâti puis qu'ils ont développé ensemble. Puis on a vu vraiment des effets extraordinaires sur justement la qualité des soins, la continuité des soins, l'augmentation là, du temps disponible aux résidents par les employés. Puis c'est ce qui nous a amené à dire, ben on pense qu'on a trouvé une façon de faire.
On tient un modèle intéressant
qui nous permet d'évoluer puis de faire évoluer nos équipes. Mais surtout, là je le redis, c'est la participation. C'est que les équipes sont mobilisées, puis on entend des employés qui sont là depuis longtemps, puis quand est arrivé le Scotty, ça les a remobilisés. Il y avait une espèce de... on était tannés, on le vit souvent dans le réseau de la santé, dans tous les milieux, mais ce qu'on a vu, c'est vraiment... Moi, j'ai vu des employés se transformer complètement, revenir au travail heureux, mobiliser, le goût de travailler, le goût de soigner, hâte de venir, prendre des initiatives, avoir des idées. Puis je pense que quand on les amène à participer, puis via Scotty, on le fait beaucoup, bien c'est qu'on entend leurs idées, puis on les aide à mettre en place leurs idées, puis ça, bien, ça fait des employés très heureux. Puis quand on a des employés heureux, bien, généralement, on a des résidents et des familles très heureuses aussi parce que ça se reflète directement sur la qualité des milieux de vie.
Ça fait que ça passe beaucoup, le début d'un changement, une amorce, ça se passe beaucoup par le Scotty, ça vient mobiliser. Là, le Scotty est pas mal déployé partout. Y a-tu d'autres éléments où, tu sais, dans le fond, Mélanie, ça a été une grosse transformation à Hubert Maisonneuve. Y a-tu d'autres fronts qu'il faut, tu sais, d'autres grands mandats qu'il faut le réfléchir dans une transformation pour arriver à un. C'est un gros changement de culture, c'est un gros changement de pratique.
Oui, puis non. Le Scotty okay. est déployé partout, ouais. C'est vrai, mais il y a plusieurs versions du Scotty. Et je dirais que là, on est rendu à l'ère où on devra déployer le Scotty 2.0. Donc, Mélanie en a parlé parce que dans son installation, dans sa maison, ils ont commencé à organiser le travail vraiment autour du 24 heures du résident. Puis ça, c'est la version Scotty 2.0. C'est pas le cas dans toutes nos installations encore. Donc, on a ce déploiement-là à poursuivre dans toutes nos installations. Puis quand vraiment, là, on aura 1024 heures partout, puis qu'on aura tous les acteurs autour de la table dans le Scotty. Là, on pourra dire qu'on a complété ces travaux-là, mais c'est tellement extraordinaire. Puis les effets, en tout cas, moi, la cote de bonheur des employés au fur et à mesure qu'on déploie le Scotty est vraiment extraordinaire, là.
Est-ce que notre modèle est parfait? Certainement pas, justement. Je pense qu'on est tout le temps en amélioration, puis on peut toujours être meilleur. Mais est-ce qu'on reviendra en arrière? Les employés sont très unanimes que non. C'est fou comment de dire que nous, on passait une semaine, puis ils pouvaient ne pas se voir de la journée. Ils se voyaient en début de journée, ils recevaient un rapport d'infirmière. Puis je veux juste rajouter peut-être, avant de passer à ta question, Émilienne, mais... concrètement, là aussi, ce qui est différent, c'est qu'on redonne du pouvoir aux employés, mais aussi aux préposés, aux bénéficiaires. En hébergement, en milieu de vie, c'est une personne clé dans tous les soins. C'est eux qui connaissent les petites habitudes de Mme Roy, puis les autres habitudes de M. Tremblay. Donc, c'est eux, ils sont les yeux, les oreilles des infirmières, et c'est eux qui voient en premier lieu quand il y a une dégradation dans la condition qui mérite l'attention de l'infirmière. Fait qu'il faut redorer ce rôle-là de préposé aux bénéficiaires, puis entre autres, le Scotty sert à ça. Anciennement, quand on dit qu'on avait un modèle calqué de l'hôpital, l'infirmière arrivait avec son rapport d'infirmière, puis c'est elle qui était le seul pilier de la continuité de l'information. Mais maintenant, concrètement, les préposés, quand on parlait d'un tableau opérationnel, ce que ça veut dire ultimement, c'est « bon, ben Madame X, elle est en partie en rendez-vous à l'hôpital, fait qu'on le met. » Aujourd'hui, on a une nouvelle admission, voici le nom de notre président, puis voici ses particularités. Fait qu'on inscrit concrètement, puis c'est aussi les préposés, fait que les préposés, entre eux, peuvent se passer de l'information. Fait que, puis des fois, la qualité en hébergement, est propre à la reconnaissance de l'unicité de chacun. Fait que quand on dit sur les autres axes, entre autres, ce qu'on a mis en place, c'est des systèmes même d'horaire qui permettent une stabilité de notre personnel. Puis bien souvent, les préposés ou la particularité d'un milieu de vie, c'est qu'on établit un lien, mais un lien sur du long terme avec nos résidents. Fait qu'eux, ils apprécient d'être toujours avec... moi, j'ai Joanne qui est dans ma section, puis on développe un lien qui est particulier ensemble. Donc, je m'assure que Joanne est le plus possible dans la même section, puis ça va amener la qualité dans le soin également, indirectement. Fait que nous, comme organisation, comme gestionnaire, il faut mettre en place des systèmes d'horaires qui permettent le plus de stabilité, qui est d'autant plus apprécié par nos résidents.
Puis là, on parle des horaires des employés, l'horaire de travail.
Oui, je dis, ça commence par ça, la qualité. Ça a l'air niaiseux comme ça, mais autant qu'on favorise la stabilité de notre personnel, mais ça profite aux résidents qui établissent leur lien avec leurs intervenants. Puis ça profite aux intervenants qui cherchent ça aussi, la stabilité, parce qu'ils ont l'impression d'être encore plus... quand on dit donner le bon soin à la bonne personne au bon moment, ça leur donne, ils connaissent par cœur les petites habitudes. Fait que ça, c'est quelque chose de plus large, mais pour lequel, bien, plus structurel, je vais le dire comme ça, mais qui a tout un impact. Fait que il y a plusieurs axes.
Oui, puis c'est important ce que tu dis, surtout par rapport aux préposés aux bénéficiaires, parce que c'est vrai que c'est vraiment c'est la force dans un milieu d'hébergement. C'est eux autres qui sont les plus nombreux. C'est eux autres qui côtoient le plus nos résidents, qui connaissent le mieux souvent nos proches, nos familles. Donc, de leur redonner le pouvoir sur leur horaire de travail, sur l'organisation de leur travail. Puis c'est là qu'on s'en va avec la transformation des milieux d'hébergement. Hein. Que les préposés puissent eux-mêmes construire leur horaire de travail. Donc, ils connaissent suffisamment bien les résidents et leurs habitudes de vie pour pouvoir organiser leur plan de travail et non pas se faire organiser par quelqu'un d'autre. Donc, on veut leur redonner ce pouvoir-là. Donc, ça, c'est un élément très important. Puis, ce qui est intéressant, c'est que justement, cette participation des employés-là qui débute avec le SCOTY autour du résident, de l'organisation, puis du 24 heures, ça nous amène aussi à amener les employés à participer aussi au niveau de la gestion du milieu. Donc, avec les résidents, avec les proches, avec les familles, de décider des activités, de décider aussi des différents, ça peut, des menus, des repas, de participer à ces différents éléments-là, de participer à la construction des horaires aussi, parce que on le sait, hein, la conciliation travail-vie personnelle, c'est très important. Puis aujourd'hui, on commence, on le voit, des employés qui peuvent avoir des horaires un peu différents, un peu plus flexibles, qui nous permettent de mieux répondre aux besoins des résidents, mais en même temps, de répondre à leurs besoins à eux comme employés, qui peuvent avoir des contraintes dans leur vie personnelle de tout ordre.
Conjuguer les deux, en fait.
De conjuguer les deux. Et ça, c'est vraiment là, c'est la direction qu'on veut prendre puis qu'on commence à prendre là, dans certaines de nos installations. Donc,
puis ça se construit sûrement après, faire des plus petits changements ou des plus petites modifications, puis ça doit être plus facilitant avec des équipes qui sont bien, puis qui sont stables, puis qui connaissent le milieu aussi, là.
Absolument, absolument. Puis ça, puis tu sais, les travaux, disons, je prends juste mon expérience personnelle, tu sais, on a mené tout. De un, il faut accepter que changer de philosophie, ça se fait pas du jour au lendemain, hein. Puis on a des soignants qui aiment soigner, puis pour eux, le soin, c'est primordial, puis avec raison. On a tous des gens qui sont très dévoués. Mais là, on change des paradigmes, puis là, les prises de sang, on les fera plus le matin, on va le faire plus tard dans la journée. On bouscule des habitudes, hein, qui sont souvent bien ancrées. Puis essentiellement, ce qu'on veut faire, je vais l'illustrer, de dire, avant, on parlait de tournée, hein? Mm-hmm. Tournée de changement de culotte, tournée de collation, tournée. Bien, essentiellement, la philosophie qu'on veut adopter, bien, il faut abolir le mot tournée. Parce que quand on fait une tournée, c'est comme ça, on fait un même acte sans réfléchir aux besoins, au fond. Fait qu'on bouscule beaucoup d'habitudes, là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est la théorie des petits pas. Dans le sens, ça se transforme, mais un pas à la fois, une initiative à la fois. Puis, on fait un petit pas, ça prend du temps, mais c'est payant. Puis la raison pourquoi ça prend du temps, c'est qu'il faut le faire avec les gens. Puis, en soins, souvent, parce que nous, on a des gens sur le plancher en tout temps. C'est difficile, c'est un défi en hébergement de libérer des gens à faire des travaux, là. C'est tout un défi. Donc, on essaie de passer par des voies faciles, on va faire des petites capsules, mais il faut prendre le temps puis se donner les moyens. Fait que quand, comme direction, au CIS et Laurentides, ça part en hébergement, on s'est dit, bien, on va se donner les moyens parce que je pense que ça va être payant au bout du compte, de libérer des gens, de forcer à ce qu'on assoie des gens puis on prend un moment d'arrêt avec nos gens pour le réfléchir. Eux aussi sont juste dans un roulement quotidien. Fait que c'est difficile de prendre ce recul-là pour améliorer nos pratiques. Fait qu'on travaille avec les gens. Mais avec les gens veut dire aussi, moi je dis tout le temps que moi je travaille avec des forces. Hein? Je travaille avec des forces, puis il faut faire briller nos forces sur le plancher. On n'est pas des robots, donc les forces sont à différents niveaux. Il faut apprécier les gens pour ce qu'ils nous apportent plutôt que ce qu'ils ne nous apportent pas. J'ai une vision, j'aime avoir une vision positive des choses. Puis quand tu fais élever ces gens-là, ils accomplissent des choses extraordinaires, puis en plus, sont des leaders positifs sur le plancher. Ils deviennent des complices de la transformation, hein? Parce que je pense que chacun a son rythme aussi dans une transformation. Mais l'acteur clé là-dedans, c'est nos résidents partenaires ressources. On a adopté, je pense qu'on va en parler dans un autre podcast, mais un modèle de co-gestion avec nos résidents partenaires ressources, avec aussi une co-gestion médicale. Mais ça, c'est aussi le cœur. C'est à travers tous nos travaux, il y avait des représentants des résidents. T'sais, selon le thème, puis l'important, c'est de bien choisir aussi, avoir des gens qui ont des paires de lunettes différentes autour de la table.
Les bons participants aux bonnes places.
Absolument. Là. La différence, pour moi, c'est de la richesse. Fait que des paires de lunettes différentes, ben ça permet de couvrir tous les angles morts, finalement, puis d'arriver avec une bonne solution. Puis moi, je dirais que je suis la chef d'orchestre pour que ça se passe, mais ultimement, les musiciens, c'est nos employés, c'est nos résidents. Fait que moi, je suis là pour mon rôle, c'est de guider ces gens-là, parce que c'est eux les experts du plancher. Hein? C'est eux les experts. Les résidents sont les experts de leur propre expérience. Fait que nous, on veut faire une musique avec ça. Fait que moi, je suis plus pour que la musique opère, je vais le dire comme ça, mais essentiellement, les musiciens, c'est pas moi. Les experts, ils sont autour de moi.
Fait qu'on n'est pas dans une philosophie, on n'est pas dans un style de gestion où est-ce que c'est le gestionnaire qui est l'expert, qui a le chapeau puis qui dit « c'est ça qu'on fait, on s'en va par là ». On n'est pas là-dedans, en fait, dans les transformations. On est davantage
On est complètement en gestion participative. Puis j'insisterai sur l'implication des proches aidants, l'implication des usagers partenaires ressources, des comités de résidents. Donc, je pense que Mélanie le décrit très bien. Le gestionnaire devient un chef d'orchestre, mais le résultat appartient complètement aux musiciens, donc aux gens sur le terrain qui vont faire émerger ça à travers leurs forces. Puis pas juste leurs forces, à travers leurs faiblesses aussi. Parce que c'est à travers ces faiblesses-là que on constate justement qu'on a des choses à améliorer puis qu'on fait des efforts, hein, qu'on fait plus d'efforts pour trouver des solutions. Puis souvent, c'est ces moments-là qu'émergent des belles innovations, des belles idées. Puis je pense que nous autres, comme équipe de direction ou comme gestionnaire, on doit encourager ces gens-là, les amener à réfléchir, les amener à innover, leur faire de la place, leur donner les moyens de le faire. C'est vraiment ce qu'on fait là au 6 de Laurentides, dans la direction Sapa Hébergement. Tu sais, je pense qu'une de nos grandes forces, c'est qu'on a plusieurs installations, beaucoup de gens, puis qu'on est capable d'aller chercher l'innovation puis les idées de tout le monde, puis de se les partager, tout en respectant les couleurs locales. Donc, ce que Mélanie est en train de faire dans son installation actuellement, dans sa maison, c'est sûr et certain que ça va être exporté dans les autres maisons, mais les autres maisons vont pouvoir aussi le moduler puis leur donner cette couleur locale-là. Puis je pense que c'est ce qui fait vraiment notre force, c'est toute cette participation-là qu'on réussit à aller chercher de tous nos employés puis nos gestionnaires.
Fait que c'est intéressant, cette gestion participative-là. Puis, est-ce qu'elle se reflète juste en transformation, puis après ça, bien, on retombe dans un quotidien, ou de manière générale, d'aller chercher cet input-là, ou c'est la transformation où le focus est vraiment plus mis?
Bien, puis quand on parlait tantôt de notre plateforme Scotty, bien, c'est la philosophie de base, hein, c'est que eux-mêmes, on a, tu sais, quand je parlais de tableau opérationnel, on a des cases de, on peut se mettre des pistes, on a un problème fonctionnel sur l'unité, bien, on veut qu'eux-mêmes participent à la recherche de solutions, sont en support également, mais disons que le premier tour de roue va se faire par l'équipe pour les amener, tu sais, de permettre l'autonomie, c'est aussi d'accepter les erreurs, hein, comme gestionnaire, il faut accepter qu'on se trompe des fois. Puis il faut justement pas punir, je vais le dire comme ça, mais faut pas reprocher ça à nos employés, c'est de se permettre l'erreur. Puis dans l'amélioration, oui, comme Michel l'a dit, on regarde les forces, on regarde aussi nos limites, puis il faut se dire les vraies choses, hein? Il faut être honnête et intègre envers nous-mêmes. Mais on se permet l'erreur aussi, puis c'est correct parce qu'on va se corriger. T'sais, l'important, c'est d'être tout le temps, d'apprendre de ça, puis d'être ouvert envers ça. Fait que je dirais que le gestionnaire va donner la couleur. Elle est importante, mais ultimement, il faut que nos acteurs principaux, pour émerger l'initiative, il faut laisser la place à ça, puis l'accepter aussi.
Mm-hmm. Puis est-ce qu'on peut dire que dans une transformation, parce que là, tantôt, vous dites que ça peut être long, il y a un changement, faut pas se dire, ah ben, en 6 mois, c'est fait. Fait que c'est combien de temps à peu près faire une transformation? Puis est-ce qu'il y a une fin à une transformation?
comme organisation, ce qu'on souhaite, c'est d'être en amélioration continue. Donc, et il faut tendre à être autonome. Donc, toi, on entend parler de toutes sortes de choses, hein, les organisations apprenantes. Je pense que tranquillement, on s'en va vers ça. Donc, on, en étant en gestion participative, on se met en amélioration continue de plus en plus. Donc, de toujours viser à faire mieux, d'y aller dans le respect du rythme aussi. Tu sais, comme n'importe quel milieu de soins, il y a des moments dans l'année qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des années qui sont plus dures que d'autres. Mais je pense que nos employés, ils sont sur le terrain. Il faut écouter ce qu'ils vivent. Il faut écouter leur désir d'amélioration. Puis il faut travailler avec eux, trouver des solutions. Puis on parle des employés, mais je pense aussi qu'il y a le regard de nos usagers partenaires ressources, des comités de résidents, des résidents eux-mêmes, qu'il faut écouter aussi pour justement travailler avec tout ce monde-là à trouver des solutions, à être en amélioration continue. Donc, est-ce qu'une transformation, ça a une fin? Je pense qu'il y a un boost, hein? Il y a un point de départ où il faut mobiliser tout le monde. Mais une fois que le train est parti, il roule de lui-même. Et donc, je pense que comme organisation, il faut rester en amélioration continue, rester en gestion participative. Puis ça, ben oui, effectivement, c'est sans fin. Puis ça arrive toujours qu'on va prendre une décision aujourd'hui et maintenant, on va faire telle chose. Puis le contexte va évoluer, les résidents vont évoluer. Puis ce qu'on faisait il y a 5 ans, ça se peut que ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Mais ça se peut très bien que dans 5 ans,
ça
va revenir et ça va fonctionner. Je pense que ce qui est important comme organisation, c'est de toujours rester alerte par rapport à ça. Puis ce qu'on vise, c'est le bien-être des résidents, c'est le bien-être de nos employés, de nos équipes de travail. Puis quand c'est ça que tu vises, bien, tu cherches des solutions pour y arriver.
Est-ce qu'à ton CHSLD, Mélanie, est-ce que vous avez ressenti que les résidents ou les familles ont vécu aussi cette transformation-là? Est-ce qu'ils l'ont vu par la bande ou ça a plus été à l'interne avec les employés?
Bien, moi, je travaille étroitement avec le comité des résidents, entre autres, mais tu sais, on parle des résidents partenaires ressources, donc à toutes les tribunes, moi, ce que j'entends souvent, c'est de dire, bien, on sent qu'on est écouté, puis on sent que, tu sais, quand on m'adresse quelque chose ou on nous adresse, bien, on sent qu'il y a des efforts concrets pour répondre aux besoins. Fait que, moi, je dirais que je l'entends beaucoup, qu'on sent qu'on... Puis souvent, je vais donner des exemples, mais j'amène, moi comme acteur, j'amène aussi les exemples, on a des rencontres avec le service des loisirs. Bien ça, c'est un thème qui est important pour eux. Bien moi, je m'assure qu'à un moment donné, j'invite le service des loisirs, venir rencontrer le comité des résidents, faire une consultation avec eux. Fait que tu sais, j'essaie d'être catalyseur pour que ces rencontres-là aient lieu, puis moi, mon but... c'est de faire voir, puis je veux que les amener les résidents aux personnes qui sont décideurs. Je vais donner un exemple, service alimentaire, ça occupe beaucoup disons, c'est important, puis avec raison pour nos résidents. Bien, là, on organise dans beaucoup de nos centres des rencontres, puis moi, je veux que la gestionnaire du service alimentaire, qui est souvent, on appelle ça de l'arrière-scène, hein, souvent, on a beaucoup de partenaires qui travaillent dans l'ombre, puis qui sont nécessaires pour donner des soins, hein. Des fois, on oublie de les nommer, mais ils sont tellement importants. Bien, on les amène. Moi, j'aime ça que la rencontre ait lieu. Puis moi, en tout cas, je trouve ça le fun pour des gens qui travaillent des fois dans l'ombre, de dire voici là pour qui on travaille au quotidien. Puis notre raison d'être, notre mission, c'est pour ces gens-là. Fait que je favorise ces rencontres-là. Puis je crois que quand les gestionnaires, je vais donner le service alimentaire, quand ils entendent les résidents eux-mêmes, bien, moi, je trouve ça bien plus de richesse de leur bouche que de moi d'être une porte-parole. Fait que j'essaie, je le suis porte-parole dans certains dossiers, mais j'essaie le moins possible de
quand
l'être.
Quand t'es capable de mettre les bonnes personnes ensemble pour se parler puis que ça aille plus d'impact, bien là, ça...
Oui, en tout cas, moi, bien, puis je pense qu'on est tous comme ça, là, dans notre direction. On essaie vraiment mettre les bons acteurs autour de la table ensemble.
C'est très important, hein, parce que pour nos équipes de soutien qui n'ont pas qui n'ont pas souvent des contacts directs avec les résidents, qui sont nos clients, hein, ça donne du sens, énormément de sens au travail qu'ils font. Donc, je ne suis pas juste quelqu'un au service alimentaire qui prépare
un cabaret.
Je prépare le repas d'une personne hébergée qui a des goûts particuliers. Donc, je contribue à quelque chose de beaucoup plus grand. Hein? Je contribue à, puis on le sait, là, l'alimentation, ça fait partie du bonheur de nos résidents. Oui. Donc, ces gens-là participent au bonheur de nos résidents, mais faut qu'ils le sachent. Faut qu'ils le comprennent, faut qu'ils le réalisent, puis ils ont besoin d'être reconnus dans ce qu'ils font aussi. Fait que la transformation, puis c'est important que ce que Mélanie nomme, c'est que c'est pas juste les équipes de soins directs auprès des résidents, c'est vraiment l'ensemble tous des équipes qui contribuent à tous nos services. Donc, et oui, en arrière-scène, il y a beaucoup de fourmis qui travaillent très, très fort.
Puis, c'est quoi qu'on veut dire par arrière-scène? C'est quoi un peu ce concept-là?
Bien, le concept d'avant-scène et d'arrière-scène. Donc, on va parler d'avant-scène. L'avant-scène, c'est vraiment le milieu où vit les résidents. C'est le milieu de vie proprement dit. Donc, c'est les unités de vie, c'est
les chambres des résidents, les soins, où est-ce qu'ils se donnent.
Exactement. Les salles communes, les salles de rencontres où il va y avoir des activités, la cour extérieure, ça va être vraiment notre avant-scène. L'arrière-scène, bien, c'est tout ce qui se rapporte au côté institutionnel d'un milieu de vie, d'un milieu d'hébergement, parce qu'il ne faut pas le renier, là. La transformation, c'est-à-dire on transforme nos milieux d'hébergement en vrai milieu de vie, puis on essaie de s'éloigner du modèle hospitalier, sauf que ça demande que les gens qui sont hébergés ont de grands besoins de soins de santé. Donc, on a besoin de cette machine-là institutionnelle en arrière, donc sauf que on veut qu'elle soit davantage dissimulée, mais bien présente et bien active pour pouvoir contribuer, puis qu'on soit capable de bien s'occuper des personnes qui sont hébergées.
Fait que l'arrière-scène, on inclut tout le volet des soins, la gestion, les soins, tout ce qui est administratif et
gestion, tout ce qui est soins, services alimentaires, tout ce qui va être hygiène, salubrité, nettoyage, buanderie, lingerie, tout ce qui est entretien des bâtiments. Donc, c'est tous des gens qui sont très, très, très importants dans notre organisation pour s'assurer que nos milieux demeurent des milieux de qualité.
Ben oui, parce qu'on n'y pense pas. On a besoin des fois d'un électricien à la maison, on a besoin d'un électricien au centre d'hébergement aussi.
C'est ça. Puis ce qui est intéressant dans notre transformation, c'est qu'on veut les mettre dans le coup. Mm-hmm. Puis on veut que quand ils doivent venir en avant-scène, parce que ça arrive, ils viennent en avant-scène. On va prendre l'exemple des gens en hygiène et salubrité. Qui viennent faire des désinfections ou nettoyer le milieu de vie, bien, on veut qu'ils puissent rentrer en contact puis en relation avec les proches aidants, avec les résidents. Donc, qu'ils fassent partie de la famille. Et donc, à ce moment-là, bien, il faut faire des approches, il faut faire comme Mélanie fait, donc les mettre en contact et de permettre ces interrelations-là. Donc, souvent, moi, j'aime donner l'exemple à nos équipes d'entretien, de leur dire, bien, si jamais vous venez peinturer une chambre ou venez faire l'entretien, bien, ça se peut qu'il y ait des résidents qui parlent avec vous maintenant, puis ça se peut qu'il y ait des anciens monsieur de construction ou une madame de construction qui vont vous dire comment faire. Bien, il va falloir les écouter puis jaser avec eux.
Embarquer avec eux
dans la conversation, parce que maintenant, on est un milieu de vie. Donc, comme à la maison, si je vais peinturer chez un client, ben ça se peut que le client il me regarde travailler puis qu'il me donne ses directives, puis je vais jaser avec, puis je vais interagir avec.
C'est super intéressant puis inspirant de vous entendre. Ben, en terminant, j'aimerais ça que en un mot, pour vous, ça représente quoi le travail en soins de longue durée, en centre d'hébergement? Un mot, quelques mots, qu'est-ce qui vous inspire?
Ben, vas-y. Moi, je dirais que... C'est cliché, mais c'est redonner à nos sages, hein, aux personnes qui sont passées avant nous, qui ont construit notre société, le Québec en ce qui nous concerne. Puis tu sais, ben c'est leur redonner, puis s'assurer qu'ils sont bien puis heureux jusqu'à la fin de leur vie. Quelques mots.
Oui, c'est ça. Je vais essayer d'être bref que Michel.
C'est un défi pour moi de dire quelques mots.
C'est pas un mot, là. C'est quelques.
Moi, je dirais, puis je pense que c'est beaucoup notre philosophie, entre autres, à Sapin Hébergement, je pense que l'humain est au cœur de nos décisions. Tu sais, c'est l'humain, que ce soit nos résidents, mais nos employés, puis il faut savoir que tout le monde est avec de la bienveillance, tout le monde veut faire un bon travail, les résidents sont là pour passer un bon moment. Puis je pense que si on garde l'humain au cœur de nos décisions, ben on va tout le temps guider vers le bon chemin.
Ben, merci beaucoup, Mélanie. Ben, merci à vous deux d'avoir été là, puis bonne journée.
Merci, Mylène.
On ne pourrait pas finir le balado sans nos remerciements. Donc, un merci au CIS des Laurentides et au comité de travail édité, dont faisaient partie Dr. Suzanne Lebel, Gilles Montpetit, Mélanie Lepage et Mylène Germain. Un merci tout spécial à Aramis d'avoir créé et enregistré pour nous notre musique d'introduction. Merci à Valérie Ménard du service des communications du CIS des Laurentides. Et un grand merci tout spécial à Marie Janelle d'avoir laissé libre cours à cette idée folle de balado. Merci beaucoup tout le monde.
Des milieux de vie et bien plus.